épisode de Technique. Je suis avec Mathieu. Est-ce que tu peux te présenter?
Oui, mon nom, c'est Mathieu Saunier. Plusieurs personnes me connaissent sur le nom de Scooby dans la communauté. Ça fait une vingtaine d'années que je suis en cybersécurité. J'ai travaillé pour un des grands providers Internet et de télécom au Canada. Après ça, j'ai migré. Là, ça, c'est dans le SOC. J'ai fait des années aussi en consultation. Pas mal de detection engineering, threat hunting. Ça m'a amené à devenir manager d'un SOC. Puis de fil en aiguille, même directeur d'un SOC MSSP international avec des gens là, dans différents pays. Puis après ça, j'ai comme un peu pivoté vers plus du, je dirais, du threat research pour un vendeur SIEM. Puis après ça aussi pour un EDR. Et puis là, dernièrement, je viens de joindre Spectre Ops et je suis le product manager pour Bloodhound Community Edition. Ça faisait déjà plusieurs années. Là, j'ai fait plusieurs présentations sur Bloodhound. Puis c'est un peu comme ça là, que de fil en aiguille, je me suis rendu jusque pour travailler chez Spectre Ops.
C'est cool comme chemin. Tu es venu me présenter au B-Side, justement, la dernière itération avec la capacité Graph qui est maintenant rendue disponible. Fait que je vais te laisser en parler un peu, puis on va descendre sur des questions avec ça. Là.
Parfait. Donc, pour résumer un peu là, ce que j'ai présenté tantôt, juste avant Black Hat, on a mis une nouvelle version, qui est la version 8 de Bloodhound, et il y a plusieurs nouveaux features, mais le plus gros feature là, et le plus intéressant, je pense, surtout pour la communauté, c'est ce qu'on appelle Open Graph, qui te permet d'ingérer n'importe quel type de données dans ton graph et de créer toi-même tes chemins d'attaque pour ce type de technologie-là. Donc, historiquement, là, peut-être pour ceux qui ne connaissent pas trop Bloodhound, on focusait vraiment sur Active Directory, Entra ID, slash Azure. Mais là, maintenant, on peut vraiment avoir toutes sortes de choses. En même temps qu'on a mis ça sur rendu public, ça, on a aussi publié là, certains nouveaux collecteurs pour d'autres types de technologies comme 1Password, Snowflake, les databases. On a aussi, là, pendant Black Hat, on a releasé un truc qui s'appelle Jamfound. Donc, si là, les gens ont des Mac, c'est un outil là, qui permet de gérer des workstation Mac. Donc, puis il y en a d'autres. Puis quand on a annoncé la première fois là, le Open Graph, on a dit dans 48 heures, on va avoir une présentation. On met au défi la communauté de venir avec un modèle. Et puis, en 48 heures, il y a quelqu'un là, qui n'est pas du tout relié à Spectre Ops qui a publié Ansible Hound. Donc, ils ont mappé les permissions là, de Ansible, puis c'est maintenant possible de collecter cette information-là, puis de la voir le graph dans Bloodhound, entre autres. Puis dernièrement, il y a eu aussi un autre pour vCenter. Donc, tout ce qui est ESX peut aussi maintenant être mappé dans Bloodhound.
Oui, puis c'était la force initiale avant cette sortie-là de justement venir mapper les accès qui étaient dans AD et intra-AD justement pour voir des chemins potentiels. Puis d'ailleurs, tu m'as appris qu'il y avait une différence entre Access Path et Attack Path. Et j'aime ça que tu en parles parce que c'est vraiment très important. Puis elle a des nuances qui, je pense, qui n'est pas nécessairement bien connue par tout le monde.
Oui. Donc, l'analogie que j'ai donnée là, dans la présentation, je pense qu'on va commencer par ça. Mais pour ceux qui ne seraient peut-être pas familiers avec les graphes, l'application qui est la plus connue, que tout le monde connaît, qui utilise les graphes, c'est Google Maps. Puis Google Maps, ben, c'est effectivement là, Access ou l'équivalent. Là, donc, ça te donne les chemins. Ça peut te donner le chemin le plus rapide ou qui a le moins de kilométrage, puis même celui qui utilise ou qui est le plus écologique maintenant. Mais si on clique différents moyens de transport, on n'aura pas les mêmes chemins si on est à pied, en vélo, en taxi, transport en commun, voiture et tout ça, même ou avion. Donc, quand on veut, ça serait vraiment un access graph. Là, ça nous montre où on a le droit d'aller. Donc, si on veut convertir ça en attaque graph, ben, faut penser un peu plus comme un adversaire qui se fiche des règlements, qui n'a pas de loi ou qui n'a pas de conséquences aux actions. Fait que l'exemple que je donnais, c'est, disons qu'on veut traverser, on est à Montréal, on veut traverser d'un bout à l'autre du parc Maisonneuve ou quelque chose comme ça, puis que les rues sont vraies, on est en voiture et les rues sont congestionnées, ça va nous prendre quand même pas mal de temps à se rendre à l'autre bout. Si on est en vélo, par contre, ça peut prendre juste quelques minutes parce qu'il y a une voie cyclable. Qu'est-ce qui arriverait si on prenait notre auto puis on roulait sur la voie cyclable? ben c'est comme l'équivalent d'un attack pat. On n'est pas supposé de faire ça. On sait qu'on va se faire attraper. On sait qu'on va avoir une contravention. Mais dans le monde digital, les gens souvent sont, je veux pas dire moins conscients, mais il y a...
Ben, les conséquences sont généralement, surtout quand tu es un attaquant, sont moindres. Il n'y a pas de policier du attack pat qu'on pourrait avoir comme dans le vrai monde.
C'est ça. C'est sûr que les conséquences aussi arrivent quand elles arrivent beaucoup plus tard. Donc, ouais. Puis souvent aussi, en fait, dans le monde digital, je dirais, il y a souvent aussi des gens qui sont autorisés à faire ces tests-là. Hein, ton point de vue, ça, penser à tous les gens qui travaillent en sécurité offensive, qui font des pen tests, qui font de offensive security, eh bien, il n'y a pas de conséquences parce qu'en fait, on veut qu'ils les trouvent avant nos adversaires, là, nos vrais adversaires.
Pour aller plus loin, donc, oui, puis c'est fait. Puis il y en a beaucoup des vrais adversaires. De trouver, donc ça l'aide justement à faire la carto de tous ces éléments-là. Je trouve ça intéressant l'exemple ou la comparaison avec Google et les chemins qui sont faits. Dans le réel, l'attaquant va aller chercher le chemin qui lui permet justement d'aller. La visualisation est un outil très, très facilitant pour nous amener à découvrir rapidement des chemins d'attaque plus payant.
C'est ça, puis tout est dans la puissance du modèle. Si on se rapporte à Bloodhound au tout début, il y avait trois types d'objets, trois types de relations. Tu sais, il y avait les utilisateurs, les groupes, puis les ordinateurs. Puis il y avait trois relations, je me souviens plus exactement c'est quoi, mais tu sais, member of, admin, puis je pense que c'est as session. C'est avec ça que Bloodhound a commencé, puis c'est juste avec ces trois types d'informations-là, comment ça se mappait, qu'ils pouvaient voir, OK, si je compromets cet utilisateur-là, je peux avoir accès à telle session, voler les cookies de telle session, ce qui va me donner accès à tel ordinateur, puis comme ça, ça rentre généralement là, jusqu'à un système qui avait des privilèges, ou soit un système, un ordinateur ou un compte. Puis là, avec les recherches qui ont été faites, entre autres chez Spectre Ops puis d'autres organisations, ben on a rajouté des trucs, tu sais, comme on parlait tantôt offline, mais de Kerber Hosting. Ben ça, c'est un axe. Maintenant, on a cette propriété-là, puis on peut savoir s'il y a un objet dans le graphe qui est Kerber Hostable. Donc, ça peut nous donner des chemins d'accès, là, puis élever nos privilèges avec ça.
Ça, tu le mentionnes, ça a évolué énormément. Au début, c'était des objets plus simples. Ils se sont améliorés. Puis, dans le fond, le fait d'avoir ouvert aussi l'Open Graph amène ce genre de choses-là. À quel point c'est rendu beaucoup plus complet et à quel point ça va justement nous aider à trouver le chemin d'attaque le plus rapide, essentiellement, là, vers.
Tu parles de.
Au sens où tu disais qu'au début, il y avait juste trois types d'objets, ainsi de suite. Là, maintenant, on n'est plus en cet état-là des choses, puis maintenant, on est même capable de personnaliser.
Oui, OK.
Tu disais comme Ansible, mais là, tu es capable d'avoir une cartographie des permissions Ansible, et donc, pour un défenseur, ça va donner l'accès à voir où tu n'as pas bien fait ton travail. Puis quand tu es un attaquant, ben, où le défenseur n'a pas bien fait son travail essentiellement.
Oui, oui, oui. Donc, oui, c'est ça. Ben, je pense aussi là, que ce qu'on n'a pas encore mentionné, mais qui va avec ce que tu dis, c'est la vraie puissance. C'est sûr que c'est intéressant de mapper des trucs comme Ansible. On a aussi One Password, GitHub, tout ça. Mais s'il y a juste ça, on manque quand même le big picture. Fait que la force aussi, c'est qu'on est capable de les relier avec ce qu'on a déjà. Donc, en disant, là, avant, on avait juste, je mets ça en guillemets, on avait juste Active Directory, mais maintenant, si on rentre sur un poste d'un utilisateur, disons toi, puis tu as accès à un répertoire GitHub, tes tokens, tes cookies peut-être sont là, je peux voler cette session-là. Au lieu de juste voler une session Active Directory, je pourrais voler ta session GitHub, mettre du code à ton nom dans un projet peut-être que tu contrôles, puis après ça, ben, faire un supply chain attack, par exemple, si c'est comme une librairie ou quelque chose qu'il y a beaucoup, beaucoup de monde qui utilise. Là, fait que ça nous amène vraiment, je pense, à penser en plusieurs dimensions. Puis juste exactement comme tu disais, le graphe nous permet de voir ça parce que je ne suis pas sûr que tout le monde le voit dans sa tête là, nécessairement comment ces choses-là sont connectées puis comment en envoyant un fiche à quelqu'un, on peut se ramasser à faire un commit dans un repository de NPM qui est utilisé par 2 millions de produits, tu sais. Mais on l'a vu arriver, on en a des exemples de supply chain attack, c'est exactement ça qui s'est passé.
Oui, mais c'est justement, les attaquants ont été capables de mettre en œuvre, donc c'est un outil qui est défensif aussi, justement, pour nous permettre de voir ces éléments-là qui manquent. On disait historiquement, c'était un script qu'elle allait chercher parce que Bloodhound était séparé sous le script de récupération puis la visualisation.
C'est toujours comme ça. Ouais.
Qui aide les gens. Mais là, quand tu parles d'autres modèles, donc d'aller ailleurs de tout ça, donc ça prend d'autres modules pour venir chercher l'information puis la rendre au format pour les graffer.
Oui, exact. Donc, ceux qui sont intéressés là, à créer leur propre modèle, il y a un minimum requis s'ils veulent se retrouver là, dans notre liste de projets de la communauté. En ce moment, il y en a deux qui ont été faits par la communauté. J'ai d'autres gens qui m'ont déjà contacté en privé sur notre Slack pour me dire sur quoi ils travaillaient pour essayer d'éviter un peu là, le dédoublement. Fait que je sais qu'il y a des choses quand même assez cool qui s'en viennent. Donc, tu sais, ça, c'est vraiment le fun, mais ça, donc on essaie de mettre quand même un certain standard. C'est sûr que nous, on ne pourra pas nécessairement le supporter, surtout pas dans notre version commerciale out of the box, là. Mais si un client, soit de la version communautaire ou de la version entreprise, décide de rouler ces scripts-là, nous, on ne les empêche pas. Là. Ça fonctionne dans les deux. Il faut créer le connecteur, donc il faut savoir quel. Il faut avoir une documentation aussi avec ça, un minimum de documentation sur comment, c'est quoi les permissions que ce collecteur-là a besoin pour aller chercher cette information-là. On parlait de Ansible tantôt. Ben c'est quoi le minimum d'accès que je lui donne? Parce qu'on ne veut pas non plus surprovisionner les comptes. Ben, ça devient dangereux aussi. Ça devient d'autres cibles. Toujours least privilege, là, le fameux concept. Ensuite de ça, ben, il y a de la... Au-dessus.
Oui, non, t'as raison. Là, okay, je souris parce que j'accaisse à ce que okay, tu dis. Oui,
je pensais que t'avais quelque chose
en tête. Non, j'ai pas une blague en particulier sur
ouais,
ça.
C'est ça que je pensais que ça s'en venait. Donc, il y a ça. Donc, le collecteur, comment il fonctionne, c'est quoi les switches, les minimums, sur quel OS si on a besoin de compiler, c'est quoi les librairies que ça prend, etc., etc. Puis, ben, une documentation aussi, là. Sur les comment exploiter ou comment défendre, des références aussi, s'il y a des attaques qui sont connues. Ça, c'est toutes des choses qui sont vraiment intéressantes à avoir. D'autres choses qui sont intéressantes, mais qui ne sont pas obligatoires. Dans OpenGraph, tu peux définir tes propres icônes. Tu peux aussi choisir les couleurs. Donc, si tu ne les définis pas, ça va être juste des points d'interrogation. Donc, c'est quand même intéressant si tu fournis à la communauté les images que tu penses représentent les objets. De cette façon aussi, si les gens commencent à partager sur les réseaux sociaux ton produit, ben tout le monde a le même look and feel partout pour tous les gens. Puis, s'ils n'aiment pas tes couleurs puis tes icônes, ils peuvent quand même les changer. C'est tout est open source. Fait que ça, c'en est un, mais ça, c'est plus eye candy. Aussi, ben Bloodhound fonctionne sur une base de données graphique. Historiquement, Neo4j, maintenant Postgres SQL, qui n'est pas graphique, là, mais on a un module qui convertit le langage. Puis le langage, justement, ça s'appelle Cypher. Donc, ça a une syntaxe assez particulière. Puis nous, un de nos projets, c'est de convertir Cypher, qui a été créé par Neo4j, mais d'appliquer cette syntaxe-là sur une base de données Postgres. Pourquoi je dis tout ça? C'est qu'une chose qui est très intéressante, c'est que ce n'est pas parce que vous créez votre collecteur, vous les ingérez ça dans Bloodhound, now what? Okay, parce que là, pour le moment, il faut vraiment avoir du cipher pour pouvoir naviguer ce nouveau graphe-là. On va mettre des outils en place dans la plateforme pour que ça soit plus facile, mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc, quelqu'un qui ne connaît pas du tout cipher roulerait, disons, le Ansible Hound ou le One Password Hound qu'on a, pourrait importer toutes les données, mais il serait un peu bloqué là. Donc, si on fournit à l'utilisateur des queries déjà bâties pour dire « Je veux voir toutes les permissions de mes users de base vers tel élément qui est le crown jewel de 1Password, probablement la vôtre, la voûte de mot de passe, ben là, tu sais, ça aide les utilisateurs. Puis après, ben, quand on clique sur une query, une requête comme ça, en Cypher, ben on la voit à l'écran. Fait qu'on peut aussi la modifier pour aller chercher certains éléments. Tu sais, au lieu d'être tout, ben on peut peut-être aller spécifier le compte qu'on veut voir, le groupe, soit la source ou la destination. Souvent, quand on fait des choses comme ça, on va voir là, qu'il y a des nœuds ou il y a des endroits qui sont extrêmement... qu'il y a beaucoup de nodes ou qu'on voit qu'il y a beaucoup d'activités. Des fois, on veut creuser ça pour comprendre c'est quoi ces objets-là. Fait qu'en connaissant au moins un peu Cypher, on peut vraiment aller modifier la vue qu'on a ou la perspective avec laquelle on va regarder le graphe. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment intéressant à soumettre avec votre projet pour aider les gens.
Oui, puis là, tu parles, ça, c'est le volet défensif. Dans le fond, dans le contexte où on essaie d'aider à améliorer nos configurations, le bleu, c'est également utilisé en rouge, en red team, puis là, en attaque. Parce que là, on n'a pas nécessairement les permissions, on n'a pas nécessairement le chose, parce que tu parlais justement des plugins. Ben, on faut tel genre de permission, on faut tel genre de choses. Donc, on présume que l'information est facilement récupérée, est accessible. Si on prend l'exemple de la version plus originale de Bloodhound, on n'avait pas besoin de tant de permissions que ça, puis on était capable d'aller drainer de par le fonctionnement même ou la verbosité naturelle de Active Directory, de juste dire trop de choses. Et c'est encore le cas d'ailleurs, il est encore trop verbeux pour ce que ça devrait être. Mais ce sont ça. Donc, quand on embarque à l'extérieur du domaine d'origine de Bloodhound, puis on rajoute ces plugins-là, est-ce qu'il y a des plugins qui sont développés ou des chemins d'attaque qui sont développés pour guider le Red Team dans l'extraction d'informations qui sont peut-être plus ou moins faciles à obtenir?
Ben, honnêtement, je pense que c'est la même chose. C'est les mêmes requêtes. C'est juste le but qui n'est pas le même. On dit souvent, il y a du monde qui dit c'est pas le fusil qui est dangereux, c'est comment tu l'utilises ou c'est pas le marteau, blablabla. Là, tu peux faire ce que tu veux avec un marteau. Tu peux t'en servir pour construire, puis tu peux l'utiliser, mettons, pour détruire aussi. Fait que c'est un peu la même chose, je pense, pour ces produits-là. Moi, j'ai toujours utilisé Bloodhound dans un but défensif, ou pratiquement toujours, je dirais 95% de mes utilisations de Bloodhound ont toujours été pour le Blue Team, de par mon bagage. Fait que c'est un peu la même chose. Les Cypher Query, que tu sois rouge ou bleu, ils vont se ressembler beaucoup. Puis tu vas être obligé d'utiliser, en tout cas aujourd'hui, tu es encore obligé d'utiliser Cypher pour aller chercher cette information-là dans ton Open Graph. Donc, d'après moi, ça ne change pas. Là, c'est juste ce que tu vas faire avec. Ce qui va peut-être changer, excuse-moi, là, ce qui va peut-être changer, c'est justement dans ta documentation. Si tu l'as plus avec une optique de Red Team, dans ta documentation, tu vas dire comment je fais pour exploiter cette relation-là entre deux choses. Tandis que si tu es plus défensif, tu vas dire comment je fais pour remédier cette chose-là. Mais si tu le sais et tu es dans les deux, tu peux facilement mettre les deux aussi dans ta documentation.
Non, ouais, ben c'est ça. Donc, c'est la capacité de Cypher de manipuler les données, parce que c'est un peu ça aussi, le point et la transformation entre les deux. Puis, c'est un peu. En tout cas, moi, je ne suis pas très doué là-dedans, là, mais t'as ta donnée, puis ensuite, il faut que tu fasses du sens. Fait que c'est un peu ça que Cypher, dans ce cas-ci, va faire. Est-ce que votre volonté de simplifier Cypher, justement, pour rendre ça un peu plus accessible, en tout cas, ish, là.
Rendre
ça un peu plus accessible à des gens qui sont moins connaissants dans ce type de langage de visualisation.
Oui. Donc, il y a différentes initiatives là-dessus. On a un truc qui s'appelle Cypher Library. Donc, on a une librairie là, de beaucoup de Cypher Query qui ont été écrits soit par SpectreOps, soit par la communauté. De cette librairie-là, si on a une instance Bloodhound, encore une fois, soit entreprise ou même Community Edition, on peut directement du portail rouler la Query Cypher dans notre environnement et voir les résultats. Donc ça, c'en est une façon. Cette librairie-là va aussi servir pour des queries de type Open Graph, donc pour les extensions ou les nouveaux modules. Puis on a fait, c'est sûr que comme tout le monde, là, on a regardé un peu si on était capable d'utiliser du LLM pour générer des query cypher. Pour l'instant, on n'a pas eu beaucoup de succès parce que le corpus de trucs qui est public pour Cypher, spécifiquement pour Bloodhound, est extrêmement petit. Donc, il nous donne pas mal de choses qui sont plus ou moins intéressantes. Mais on a d'autres pistes, là. Puis c'est drôle, là, il y a des gens qui en parlaient ici même, là, au B-Side Montréal, mais plus on va plus probablement se focusser vers des MCP puis du Agent Tix, puis s'assurer que le modèle est entraîné là, sur aussi nos choses à nous, nos modèles, notre langage, puis qui connaît comment on transforme, puis quel verbe de Cypher on utilise. Là. Parce que comme je disais tantôt, on est en train de on fait comme un layer d'abstraction. Donc, c'est sûr qu'on ne peut pas supporter non plus 100% de Cypher aujourd'hui. Là. Puis c'est pas notre but non plus. Là. On veut vraiment ce qui focus sur le pathfinding, mais il y a d'autres trucs qu'on a moins besoin là, de supporter.
D'un point de vue, puis là, c'est basé sur ton expérience, on a parlé de l'outil. L'opérationnalisation en défensive de Bloodhound ou OpenGraph maintenant se fait comment dans un SOC? Comment on va mettre ça en place pour avoir une vision défensive au sens où où mettre nos efforts pour nous protéger, améliorer ou, en cas d'incident, de réussir à faire sens de l'attaquant et de peut-être essayer de l'attraper en chemin avant qu'il se rende trop loin?
Ouais. C'est sûr que nous, on a un produit commercial, là. J'essaie de pas trop en parler, là, mais qui est vraiment, qui focus vraiment sur les équipes défensives. Donc, c'est Bloodhound Enterprise. Ça, c'est vraiment fait pour la défense. Entre autres, ça va scanner presque en continu. Ça va créer là, des visualisations. Ça va t'indiquer sont où les choke points, là, les endroits là, les plus critiques, puis après ça, tu vas pouvoir faire ta rémédiation. Par contre, il y a moyen aussi de le faire, surtout au début, là, quand on ne l'a jamais roulé, là, on trouve des mines d'or là, quand on roule Bloodhound, même la version gratuite, dans un réseau. Il y a plein de Cypher Query qui existent pour Active Directory, pour Azure. Je parlais tantôt du Cypher Library. Donc ça, c'est une bonne place. Tu sais, de cliquer sur les queries une après l'autre, mais après ça, c'est... Il faut comprendre ce qu'on voit aussi. T'sais. Fait que souvent, ça prend des gens qui ont quand même une certaine connaissance de Active Directory pour comprendre c'est quoi l'implication des choses qu'on voit, comment un attaquant peut faire ça. Mais je pense que ce que je recommande tout le temps, là, si quelqu'un n'a jamais utilisé Bloodhound et a la permission de le rouler dans son réseau, c'est tu roules Bloodhound, tu fais la collection de Active Directory, puis tu vas dans. Il y a une des queries qui s'appelle. Je pense que c'est des users vers domaine admin. Donc, tous les chemins qui mènent vers domaine admin. Puis généralement, là, si vous n'avez jamais roulé l'outil, vous allez trouver des affaires incroyables. La première fois que je l'ai roulé, il y a 7-8 ans, dans l'entreprise où j'étais, il y avait une machine qui était un des choke points, donc qui donnait accès à tous les utilisateurs de l'entreprise. À devenir domaine admin en à peu près 2 ou 3 étapes. Donc, cette machine-là était gérée, un serveur, était géré par une équipe qui n'était pas du tout IT et encore moins security. Et je pense qu'ils voulaient donner accès à leur équipe en RDP sur cette machine-là pour pouvoir faire des trucs. Comme c'était pas des gens de... je vois ton visage. Comme les gens, c'était pas des gens de IT, ils ont mis les gens à local admin de cette machine-là. Mais je pense que tu me vois venir, au lieu de mettre leur groupe, ils ont mis « domaine user ». Donc, tous les utilisateurs de l'entreprise, qui étaient plus de 60 000 personnes, étaient administrateurs locaux de cette machine-là. Puis évidemment, bien, le compte de « domaine admin » venait se connecter là, donc son token était là. Et quand on est local admin, on peut récupérer ces tokens-là, le hash, et puis après ça, l'utiliser là, dans une attaque de type « pass de hash ». Donc, on fait un RDP, étape numéro 1. On dompe la mémoire, étape numéro 2. Passe de hash, 3 étapes, on était domaine admin. Ça, c'était intéressant. Ça fait quand même plusieurs années. Mais dernièrement, je l'ai roulé aussi pour un client. Puis, un peu similaire, mais je trouvais que c'était la première fois que je voyais ça. C'était vraiment cool. Bloodhound m'a montré que le login script du domaine admin était dans un répertoire qui était world writable. Fait que tout le monde pouvait écrire dans le répertoire où le domain admin loadait son login script. Fait qu'on a juste mis un petit point bat qui disait juste Si tu vois ce pop-up, contacte la sécurité. Ça n'a pas été très, très long avant qu'on reçoive un appel. Donc, tu sais, je trouvais ça super cool, super créatif comme attaque. Puis c'était la première fois que je le voyais dans Bloodhound aussi. Là. Fait que, tu sais, on parlait que Bloodhound évolue souvent très, très vite. Ben ça, ça en était un exemple.
De sa capacité de collecteur d'aller chercher plus d'informations et ensuite les scripts qui permettent de mettre en évidence ou en tout cas en très grande apparence ce genre d'éléments-là. On a fait un bon tour de ce que c'est. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu as abordées dans ta présentation qu'on n'a pas discuté?
J'ai parlé rapidement aussi là, d'une nouvelle feature qui est peut-être moins spectaculaire que Open Graph, mais c'est quelque chose quand même qu'on se faisait dire souvent. Puis là, tu sais, j'y vais avec la fameuse quote là, qui est dans presque toutes les présentations de Bloodhound, mais « Attackers think in graph, defender thinks in list. As long as this is true, attacker wins. » Donc ça, c'est John Lambert de Microsoft qui a fait cette quote-là en 2015. Fait que ça fait 10 ans, c'est encore vrai. Puis la visualisation, c'est vraiment le paradigme que Bloodhound veut régler. Mais on parlait tantôt de Kerberos-Table, des accounts qui sont Kerberos-Table. Quand on fait cette requête-là, dis-moi c'est quoi les comptes qui sont Kerberos-Table dans mon environnement, on reçoit plein de petits points sur l'écran et c'est un peu difficile d'avoir l'information. On a juste un nom de compte, mais on n'a pas le privilège, on ne sait pas dans quel groupe ils sont, tu sais, on ne voit pas grand-chose. Donc, on a fait un truc qui s'appelle Table View, qui va te permettre de voir ça dans une table et qui va permettre de choisir c'est quoi les colonnes que tu vas voir dans cette vue-là, puis d'exporter ça en JSON. Bientôt, on devrait avoir la version CSV aussi, là, mais pour le premier release, c'était seulement JSON, mais c'est déjà quand même beaucoup mieux qu'avant. Puis on peut aussi convertir, ça c'est dans Layout, Table View, mais par défaut, si un query retourne seulement des objets et pas de relations, on va aller en Table View. Mais si vous avez un graphique puis vous voulez avoir les éléments de ce graphique-là, c'est possible aussi d'aller en mode Table View puis d'exporter là, les données. Fait que c'est un petit quality of life improvement là, qui nous était demandé depuis quand même longtemps.
Oui, mais c'est le fun, on revient toujours à la visualisation. J'aime bien la citation parce que je l'utilise régulièrement aussi parce qu'elle est ce que c'est. Et ces outils-là aident les gens qui ont moins de capacité à réfléchir en graphe à se faire exposer à ça et donc de les aider à cheminer avec ça. En terminant, tu organises le chapitre local d'un événement de cyber. Fait, j'aimerais ça que tu m'en parles parce que moi, je ne le connaissais pas avant que tu me le présentes. Fait, j'aimerais ça peut-être élargir la connaissance et la ce que c'est, du moins dans le public francophone, parce que je pense qu'on est très peu servi sur ce que c'est. Là.
OK. Oui, donc depuis, ça va être ma deuxième année, je suis ce qu'on appelle le site leader de Montréal pour la conférence qui s'appelle DETCON. DETCON, c'est pour Detection Engineering and Threat Hunting. Donc, c'est une conférence pour les defenders plus, là, ou entre ceux qui veulent, qui font du threat hunting puis de la detection engineering, donc qui créent des règles puis qui font la chasse aux menaces en bon français. C'est une conférence qui a commencé 100% virtuelle pendant la pandémie. Puis depuis que la pandémie est terminée, on rajoute des sites un peu partout dans le monde. Il y a plusieurs villes qui ont leur chapitre, comme tu disais. Une des choses qui est peut-être très différente des autres conférences, c'est que c'est 100% hands-on, donc ce n'est que des workshops. Les workshops, pardon, sont comme pré-enregistrés. Donc, quand vous venez sur site, vous avez certains avantages. Vous pouvez travailler en équipe. Il y a deux salles. Il y a toujours deux salles dans tous les sites de DETCON. Une qui est, moi j'appelle la broadcast room, donc on présente des workshops en semi-continu. Là. Fait que c'est deux le matin, deux l'après-midi, puis c'est sur deux jours la fin de semaine. Et puis on a une autre salle qu'on va appeler la cooperation room, où les gens peuvent s'asseoir autour de grandes tables, travailler, écouter un autre workshops, il y a des CTF. Donc, ils peuvent faire un peu des choses là, de leur côté. Ils peuvent aussi juste jouer dans le lab. Le lab est immense. Puis, ils restent là pendant longtemps. Là. Fait que s'il y a des outils que vous avez toujours voulu essayer puis que vous n'avez peut-être pas la chance, disons, on a typiquement, on va avoir un Splunk, un Elastic, un Sentinel au minimum. Cette année, je sais qu'on va avoir Security Onion aussi. Donc, tu sais, si vous êtes intéressé à apprendre ces outils-là, ben vous pouvez vous connecter juste dans le lab puis faire vos propres trucs aussi. Ce qui est quand même assez cool aussi, je pense, de cette conférence-là, c'est que vous gardez accès au lab pendant au moins un mois après. Mais l'année passée, je pense qu'on l'a gardé quasiment jusqu'à Noël. Ouais, ben là, c'est ça, c'est en novembre. Fait que, tu sais, c'était presque 2-3 mois de plus là, que les gens ont continué à avoir accès au lab après. Là. Puis on a accès au contenu. Donc, on peut faire les labs un peu n'importe quand. Là.
C'est super intéressant. C'est ça, c'est en novembre cette année. Puis je pense que les inscriptions sont ouvertes au moment où
ouais,
on se
exact.
Parle.
Oui, exact. Une autre chose que je n'ai pas dit, mais oui, les billets sont en vente en ce moment. On a vendu un peu plus de 30 billets. Puis une autre particularité de cette conférence-là, c'est qu'on n'a aucun sponsor. C'est que les billets qui génèrent, qui font rouler l'événement. Et puis, on limite ça à 50 personnes on-site. C'est le maximum. Il n'y a aucun site qui va avoir plus de 50 personnes parce qu'on veut vraiment que ça reste à niveau humain. On veut que les gens interagissent entre eux, puissent se parler, puissent faire des connaissances. L'année passée, on était 20, ce qui ne recommande pas d'aller plus haut que 20 la première année, là, à moins d'avoir pas mal d'expérience en gestion d'événements. Puis cette année, on est déjà à 30. Là. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde qui sont venus l'année passée qui reviennent. Donc, moi, je pense que c'est un bon signe là, quand la grande majorité des gens reviennent. Puis tantôt, je parlais des CFP. La deuxième journée, le dimanche, il y a un gars à Montréal qui s'est mis à faire le CTF. Je dis CFP, mais c'est CTF, Catch the Flag, donc la compétition. Et puis, c'est lui qui a gagné, qui a le plus de points. Donc, il y a eu un billet gratuit pour revenir cette année. Là, fait que c'est quand même, je trouvais ça assez cool que ce soit quelqu'un de Montréal qui gagne ça. Puis sur site, on va avoir 4 personnes qui donnent des workshops. 2 personnes qui donnent le même workshop, plus 2 autres là, workshops différents. Fait qu'on va pouvoir poser des questions directement à ces gens-là là, qui ont créé les workshops. Fait que c'est quand même assez cool aussi. Là.
Ouais, c'est super intéressant. J'ai très hâte. Là. Puis là, tu me rends compte qu'il faut que j'achète mon billet avant que tu sois sold out. et donc, je déclare officiellement que je vais être là. Là. Ça fait un très bon tour. Merci énormément. C'est sûr qu'on va se reparler parce que c'est des sujets qui sont quand même immenses. On a effleuré ce coup-ci, ce volet-là avec notamment Bloodhound et tout ça, mais défensif et tout ce que ça comporte. Donc, merci énormément de ta contribution. Merci du temps que tu as consacré et tout ce que tu fais.
Hey, merci beaucoup de me recevoir. C'était vraiment cool.
Merci.